Simon Pierre, Sa vie et ses épîtres, par W.T.P. Wollaston, édition 1950. Deuxième partie, Ses épîtres. Chapitre 25. Participant de la nature divine. 2 Pierre, chapitre 1. Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix, avec nous, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise, pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car, si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle, et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. Car ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée. C'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses, quoique vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Mais j'estime qu'il est juste, tant que je suis dans cette tente, de vous réveiller en rappelant ces choses à votre mémoire, sachant que le moment de déposer ma tente s'approche rapidement, comme aussi notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. Mais je m'étudierai à ce qu'après mon départ, vous puissiez aussi en tout temps vous rappeler ces choses, car ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté, car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Et nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne, et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentif, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire, et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint.
Le soin pris par l'apôtre pour écrire une seconde fois à ses croyants hébreux prouve qu'il n'envisageait pas la continuation de l'ordonnance apostolique. Il tenait à leur donner des instructions concernant la route à suivre et à les avertir de se garder du mal. Dans ce but, il leur prédira au chapitre 2 les terribles événements à venir et le jugement de Dieu sur le monde. Cette seconde épître ressemble en certains points à celle de Jude. Toutes les deux traitent de l'apostasie finale. Pierre, de la corruption dans le monde. Jude, de la corruption dans l'Église, c'est-à-dire dans ce qui porte le nom du Seigneur. Pour aider et guider ses croyants, Pierre cherche à leur montrer comment s'appuyer sur le Seigneur et sur sa parole, Verset 1.
Simon-Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ.
Remarquons que Pierre s'intitule « esclave et apôtre ». Il adresse cette seconde lettre aux chrétiens juifs, quoique sa pensée englobe tous ceux qui ont reçu une foi semblable. L'apôtre a une prédilection pour le mot « précieux ». Précieux sang, pierre précieuse, foi précieuse, précieuse promesse. Ici, une foi de pareil prix. Vous avez, dit-il, la foi, le fait de croire, par la fidélité de celui qui était le Jéhovah d'Israël, le même qui descendit comme sauveur et marcha à travers ce monde. Dieu est juste et fidèle et, malgré le péché de la nation, vous possédez la foi dans le Fils de Dieu. Verset 2.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur.
Salutation d'usage. La grâce est la faveur actuelle de Dieu, la paix, la position dans laquelle peut se maintenir notre âme. Nous sommes en parfaite paix avec Dieu, reçus par Dieu dans sa faveur. La miséricorde, qui est une grâce individuelle, est omise ici. Même si, personnellement, je reçois la grâce et la paix, j'ai besoin de miséricorde jour après jour, car je vis dans un monde où tout est contre moi. Mais si l'Église est en cause, il n'est pas question de miséricorde, parce que l'Église est toujours considérée comme en relation avec Christ, et ayant déjà reçu miséricorde à cause de cela. Dans l'Épître à Philémon, Paul écrit à lui et
à l'assemblée qui se réunit dans ta maison,
et ne mentionne pas la miséricorde. Ce que l'on pourrait croire une exception ne l'est pas, mais prouve bien ce que nous venons d'avancer. Comment cette grâce et cette paix seront-elles multipliées? Par la connaissance de Dieu, seulement si nous marchons avec Dieu, si nous nous tenons près de Dieu, nous recevrons une paix toujours renouvelée. Il nous est difficile de marcher dans la grâce. D'une part, nous avons tendance à la négligence, de l'autre, à la légalité. Ces croyants, ayant à traverser maintes difficultés, avaient besoin que la grâce et la paix leur fussent multipliées. Versets 3 et 4.
Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise.
Au verset 3, nous avons la puissance divine. Au verset 4, la nature divine. Nous sommes les objets de la puissance divine. Une œuvre divine se fait en nous et nous donne tout ce qui concerne la vie et la piété. La vie éternelle est une vie qui plaît à Dieu, qui convient à Dieu. La piété est un caractère qui est comme Dieu dans toutes ses voies, moralement semblable à lui. La première est une vie qui émane de lui, qui n'est jamais occupée d'autre chose que de lui. Ensuite vient la piété, la ressemblance avec Dieu.
Par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu.
Une profonde connaissance de Dieu nous a procuré un appel distinct. Nous oublions trop facilement l'appel dont nous sommes les objets, tandis que nous n'oublions ni nos dons ni nos bénédictions. Dieu nous a appelés à la gloire. Au premier chapitre de la première épître, nous sommes appelés au ciel. Ici, le Dieu de gloire nous a appelés. Contraste frappant entre le chrétien et Adam dans l'innocence. Adam, responsable d'obéir à Dieu, devait s'arrêter où il était, tandis que notre responsabilité n'est pas de nous arrêter où nous étions, car le péché et la souillure constituaient notre nature, mais Dieu nous dit, Je vous ai appelé hors de tout cela par la gloire et par la vertu. » Abraham fut appelé à être pèlerin, Moïse à être un législateur, Josué un conducteur. Pour nous, notre appel est la gloire, but du chemin. Ce qui doit caractériser notre témoignage en l'attendant, c'est la vertu, c'est-à-dire l'énergie spirituelle. Cela exige le renoncement à la chair, au monde, comme Moïse qui refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché. Hébreux 11, versets 24 et 25. Il refusa la terre et ses délices, il refusa la plus haute place en ce monde et accepta une position de séparation avec les esclaves méprisés qui formaient le peuple de Dieu. Il refusa ce que la nature aurait choisi, le palais, le trône et la couronne d'Égypte, et préféra la compagnie d'esclaves dont le travail consistait à faire des briques. Il comprit qu'ils étaient le peuple de Dieu, là gisait toute la différence. Comme nous avons besoin de ce courage pour renoncer au monde sous toutes ses formes et pour marcher avec les quelques-uns qui aiment le Seigneur et sont unis à lui. Rien de plus difficile que de briser avec nos anciennes habitudes, car les coutumes ont un grand pouvoir sur nous. Ces croyants juifs s'étaient séparés de leur religion, de leur temple, de leurs ordonnances, de leurs pratiques, de tout ce qui avait fait la tradition de la nature et de leurs ancêtres. Ils étaient allés simplement à Jésus, hors du camp. Ils avaient besoin d'encouragement pour maintenir cette position de séparation, de mépris et de raillerie. Pierre les leur dispense largement. Si nous ne cultivons pas dans nos âmes cette vertu, ce courage et cette énergie, nous glisserons dans les choses que nous avions l'intention d'abandonner. Verset 4. Les promesses sont toutes en rapport avec cette vie ou avec la gloire à venir. Elles nous lient à Christ, afin que, nés de nouveau, nous participions de la nature divine par la conversion.
Participant de la nature divine signifie être amené dans l'atmosphère qui convient à Dieu et devenir ainsi spirituel. Une âme fait des progrès en goûtant ce que Dieu est. Nous recevrons d'abord la possibilité de jouir de la présence de Dieu, puis, en marchant avec lui, nous serons capables de savourer sa joie. Plus nous pénétrerons dans ces choses, plus nous deviendrons participants de cette nature divine, et nous échapperons par là même à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Qu'est-ce que la convoitise? Autrefois, nous faisions notre propre volonté. Nous en sommes délivrés maintenant, et respirons la sainte et pure atmosphère de la présence de Dieu, où l'âme trouve sa joie à faire la volonté de Dieu. Dans la gloire, toute trace de péché aura disparu. Nous en pourrions goûter quelque chose déjà ici-bas, puisque nous possédons la nouvelle nature qui plaît à Dieu. Paul exprime la même pensée.
Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Galates 5, verset 25.
Si nous vivons par l'Esprit, nous vivrons comme Christ, lui dont toutes les pensées étaient tournées vers Dieu. Versets 5 à 7.
Pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour.
Après leur avoir donné les réconforts nécessaires à leur cœur, l'apôtre revient à l'état pratique. Il sait comme nous devenons facilement paresseux, aussi sommes-nous exhortés à mettre toute notre assiduité pour cultiver ces qualités.
La vertu est l'énergie et le courage de l'âme qui sait renoncer aussi bien que choisir, comme Moïse qui refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction. Nous avons la foi qui nous rapproche de Dieu, et nous croyons ce que nous ne voyons pas encore, mais nous devons y ajouter la vertu, le courage qui sait dire « non » aux milliers de choses qui surviennent journellement, et marcher sans dévier dans le chemin ouvert devant nous. Il ne faut pas prendre ce mot « joignez » dans son sens ordinaire. Le verset 5 devrait se lire ainsi « Dans votre foi, ayez aussi la vertu, dans la vertu la connaissance, etc. » C'est-à-dire, vous avez toutes les qualités de la perfection, vous êtes parfait quand vous ne manquez d'aucune de ces qualités. Nous disons facilement de quelqu'un « c'est un bon chrétien ». Mais il manque de tempérance. Le chrétien doit refléter la nature divine dans toutes ses qualités. Joindre signifie unir les unes aux autres ces qualités de la vie, tandis que le sens véritable est ne manquer d'aucune des qualités de cette vie divine, la vie de Christ. Nous sommes laissés ici-bas pour manifester Christ, pour refléter ce qu'il est. Nous ne pouvons pas le faire si nous ne sommes pas participants de la nature divine. Nés de Dieu, nous recevons Christ, puis nous devons montrer la vie de Christ, toutes les qualités de la nouvelle nature, être des lettres de Christ lues et connues de tous les hommes. Nous pouvons être remplis d'énergie, mais être rudes dans nos manières. Ajoutez, dit Pierre, la connaissance de Dieu, l'esprit et le caractère de Dieu, ce qui convient à Dieu, car la simple connaissance enfle, mais la connaissance de Dieu maintient dans l'humilité. Celui qui connaît Dieu demeure près de lui, et celui qui vit avec Dieu acquiert de la douceur, même si l'énergie l'accompagne.
Et à la connaissance la tempérance,
non pas une contrainte extérieure, mais le fait de nous dominer. Si nous ne pouvons pas nous maintenir nous-mêmes dans le devoir, nous ne pourrons pas diriger les autres. La tempérance est cette tranquille gravité de l'esprit, toujours égale en n'importe quelle circonstance, comme Christ, jamais déprimé par l'épreuve.
Et à la tempérance, la patience.
La tempérance nous garde de dire ou de faire une chose blessante. La patience nous préserve d'être déprimés par quoi que ce soit qui nous peine. La tempérance est active, la patience passive. Si nous n'avons pas la connaissance, nous ne saurons pas comment atteindre l'Esprit de Dieu. Sans la tempérance, nous serions certains de faire quelque chose qui blesserait notre prochain. Sans la patience, nous ne serions pas capables de supporter les peines que d'autres pourraient nous faire.
Et à la patience, la piété,
c'est-à-dire ces rapports constants avec Dieu qui font que nous devrions lui ressembler. En marchant à travers ce monde, puisque nous possédons la nature divine, prenons garde à la refléter. Montrez-moi en quelle compagnie se tient un homme, et je vous montrerai quel genre d'homme il est. Vivons près de Dieu pour refléter sa nature divine. Car nous devenons semblables aux personnes avec lesquelles nous vivons.
Et à la piété, l'affection fraternelle et l'amour,
deux qualités nullement identiques. L'affection fraternelle est chose purement humaine qui peut dégénérer et même disparaître, car l'affection fraternelle peut aimer seulement les gens aimables. Elle est partiale, tandis que l'amour est impartial et infaillible. Il est divin.
L'amour ne périt jamais.
En 1 Corinthiens 13, il y a 8 choses que l'amour ne fait pas, 8 qu'il fait. C'est ce dont nous avons le plus besoin dans ce monde où tout est contre nous. À supposer qu'une personne me repousse et considère ma tentative de lui témoigner de l'amour mal à propos, l'affection fraternelle dira « je ne retournerai pas vers lui ». Mais l'amour, manifestation divine, dit Je pense à la bénédiction et au bien de mon prochain pour la gloire de Dieu. Je retournerai et verrai si je puis être de quelque utilité. L'amour ne cherche pas à découvrir le mal, mais le bien chez le prochain. 1 Jean 5, verset 2 nous enseigne parfaitement ce qu'est l'amour. Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Si nous aimons le Père, nous aimons ses enfants, nous cherchons la bénédiction des uns des autres, toujours prêts à agir comme ceux qui viennent de Dieu, dépendant de lui et lui obéissant. Par grâce, nous chercherons à aider notre prochain. Que le Seigneur nous aide à tirer profit de sa parole et à cultiver ses qualités morales dans notre foi. Si nous ne veillons pas à les développer, nous sommes certains de reculer.
À quiconque a, il sera donné, mais à quiconque n'a pas, cela même qu'il a sera ôté.
Matthieu 13, verset 12. Si nous n'éprouvons pas le désir de nous appuyer sur le Seigneur, nous ne pourrons que retourner aux choses anciennes dont nous nous étions éloignés. Que le Seigneur nous donne d'être vigilants, en ajoutant à notre foi et en progressant dans sa connaissance. Verset 8.
Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles feront que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Avoir l'importance que l'apôtre accorde aux 8 choses mentionnées au verset 5, 6 et 7, il est impossible d'en exagérer la valeur. Dieu veut nous faire toujours mieux apprécier la connaissance de Christ. Si un chrétien pratique les qualités de ces 3 versets, il exprimera toute la valeur de la personne de Christ. Tout ce qui ne conduit pas à Christ n'est que pure perte. Plus nous nous approchons du Seigneur, mieux nous réalisons combien peu nous lui ressemblons. Plus d'un chrétien se croit bon pour le ciel, mais pas pour la terre, incapable qu'il ait de faire face aux circonstances. Seule la connaissance de Christ nous rendra aptes à marcher comme il convient.
Verset 9. Car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle, et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois.
Ce n'est pas un transgresseur, car il est assuré de son salut éternel. Il est aveugle, car les choses qui concernent le Seigneur sont devant lui, et il ne les voit pas. Il a même oublié qu'il est purifié de ses péchés d'autrefois, ses habitudes, son genre de vie quand il n'était pas converti. Il les a retrouvés parce qu'il est retourné dans le monde. Il a perdu le sens de ce qu'est un chrétien, de son appel céleste, et pourtant il est lui-même un être céleste. Il a perdu de vue les choses de Dieu, il est retombé aux choses de la terre, si bien que le Seigneur est obligé de le réveiller.
Verset 10. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais.
Cette même exhortation, appliquez-vous, revient encore, et nous avons besoin de cette diligence pour garder nos cœurs attachés aux choses de Dieu. Pierre fait certainement allusion à sa terrible chute. Affermir notre vocation et notre élection, c'est être conscient que nous possédons la vie éternelle et que nous pouvons nous en réjouir. Nous avons été appelés et choisis par notre Père, donc nous devons rendre manifeste aux yeux des hommes que nous sommes appelés par Dieu. Paul l'exprime ainsi,
qu'ils saisissent la vie éternelle.
1 Timothée 6, verset 19. Verset 11.
Car ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée.
Ce n'est pas le pardon dont il est question ici, mais du gouvernement de Dieu. Si nous croissons dans les choses énumérées dans les versets précédents, nous serons préservés de tomber. Pierre envisageait la part et la récompense du chrétien dans le royaume à venir du Seigneur. La grâce de Dieu nous donne une place dans la gloire céleste, mais il y en a une dans le royaume comme récompense des services rendus au Seigneur ici-bas. La question des récompenses peut être comparée à deux vaisseaux se rendant ensemble au même port et essuyant les mêmes orages. L'un, mal équipé, mal commandé, atteint le port en piteux état, mâts et voiles arrachés et abîmés. L'autre arrive parfaitement en ordre, pavillon flottant, la coque intacte. Versets 12 à 14.
C'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses, quoique vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Mais j'estime qu'il est juste, tant que je suis dans cette tente, de vous réveiller en rappelant ces choses à votre mémoire, sachant que le moment de déposer ma tente s'approche rapidement, comme aussi notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré.
Pierre veille attentivement sur ses brebis, de peur qu'elles ne tombent, et n'estime pas de trop de revenir toujours sur les mêmes sujets. Satan fait tout son possible pour empêcher nos âmes de nous approcher de Dieu, et, si nous ne nous souvenons pas de ces choses, nous tomberons en chemin, et arrivera le moment où nous regretterons de n'avoir pas servi Christ de tout notre pouvoir.
Verset 15. Mais je m'étudierai à ce qu'après mon départ, vous puissiez aussi en tout temps vous rappeler ces choses.
Ces choses, ce terme revient 5 fois. Nous n'estimerons donc jamais assez ces choses des versets 5, 6 et 7. Pierre savait qu'il n'aurait pas de successeur, personne pour faire son travail après sa mort, et semble vouloir laisser dans ses épîtres ce qui peut être en bénédiction à ces chrétiens et une aide pour leurs âmes. Ces épîtres nous atteignent nous aussi directement et nous parlent de Christ d'une façon qui répond bien à nos besoins actuels. Nous y voyons Satan présenté comme un lion rugissant, mais nous y trouvons aussi ce qui peut lui être opposé et ce qui nous préserve de ses attaques.
Versets 16 à 18. Car ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté, car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Et nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne.
L'idée que se faisaient les Juifs du royaume consistait en la venue du Messie en gloire, en majesté et en puissance, après qu'il aurait chassé tous ses ennemis. Le Seigneur ne vint pas de cette façon, c'est pourquoi ils le rejetèrent. Ils le considéraient comme mort et enterré, et pas monté dans la gloire. Pourtant, leur dit Pierre, nous avons vu ce royaume, et nous avons été témoins oculaires de sa majesté. Il reviendra certainement, mais dans une gloire triplée, sa gloire comme Fils de Dieu qu'il a de toute éternité, sa gloire comme Messie, roi des Juifs, et sa gloire comme Fils de l'homme, selon le psaume 8. Pour le moment, il est rejeté. Le Seigneur en avait fait la révélation aux disciples avant qu'ils assistent à la transfiguration sur la montagne. Matthieu chapitre 17, Marc chapitre 9, Luc chapitre 9. Je vais souffrir et serai rejeté, leur avait-il dit. Celui qui me suit doit s'attendre à subir le même sort. Il ajouta:
il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume.
Les disciples avaient pu contempler ensuite l'image en petit du royaume. C'est ce dont Pierre parle ici. Il avait vu cette scène magnifique, le Messie, Moïse le législateur et Élie le justicier. Son cœur en était encore plein. Il aurait voulu perpétuer cette vision, mais cela aurait mis au même niveau le Messie, le législateur et le justicier, chose que Dieu ne pouvait tolérer. Alors vint la voix, comme le dit l'apôtre, de la gloire magnifique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Dans les évangiles, Dieu ajoute, écoutez-le, parce que Pierre avait besoin de cette recommandation, puisqu'il a baissé son maître en élevant Moïse et Élie. Depuis lors, il avait compris la leçon, et ici il omet ces mots. Il avait appris à n'écouter aucune autre voix que celle de Jésus. Nous avons donc à contempler la gloire du Fils. En même temps, Moïse et Élie sont des figures de ceux que le Seigneur va venir chercher. Moïse, ceux qui sont déjà morts, Élie, ceux qui ne passeront pas par la mort. Enfin, Pierre, Jacques et Jean représentent les saints qui, bien que voyant la gloire de Christ, demeureront sur la terre pendant le millénium. Cette image du royaume doit servir à fortifier la foi des croyants juifs. Verset 19.
Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire, et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs.
La prophétie se rapporte toujours à la terre, aux voies futures de Dieu sur elle, quand il balayera tout ce qui n'est pas divin, et qu'il préparera le règne du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Église est céleste et n'appartient pas du tout à la terre. Pierre recommande donc, prenez garde à la prophétie, parce qu'elle vous renseignera sur les circonstances au travers desquelles doit passer le monde, et grâce à cette lumière, vous le traverserez comme une scène condamnée sans vous en mêler. La prophétie nous dit comment Dieu rendra cette terre digne du règne de Christ après l'avoir jugée. Mais avoir seulement la prophétie devant nos yeux serait une grave erreur, parce que la prophétie n'est pas Christ, et rien ne remplace Christ pour le cœur. Les prophéties de l'Ancien Testament n'ont pas trait au même sujet que celles du Nouveau. En Malachie 4, verset 2, nous lisons
« Pour vous se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans ses ailes. »
Il s'agit du jour du Seigneur et non pas de l'Évangile, comme on l'a souvent interprété à tort, et ce jour n'est pas encore venu. Pierre, en parlant de l'étoile du matin, annonce la venue du Seigneur, de Christ lui-même, objet principal de l'espérance chrétienne. Pour les Juifs, il est la racine et la postérité de David. Apocalypse 22, verset 16.
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin.
Pour nos cœurs, l'étoile du matin, à t'y attire, le Seigneur promet.
À celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin.
Apocalypse 2, verset 28. C'est-à-dire, le vainqueur aura une part certaine, une joie céleste avec Christ, avant que le royaume n'arrive. Telle est notre espérance. Nous savons que notre part est avec Christ, qu'il nous prendra avec lui pour toujours, puis qu'il jugera la terre. Versets 20 et 21.
Sachant ceci, premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint.
Ne limitons pas l'Écriture, qui tire sa valeur du fait qu'elle nous parle de Christ. La prophétie n'aura atteint son but que le jour où Christ sera venu dans son royaume et dans sa gloire. ceux qui prétendent voir l'accomplissement de la prophétie avant la venue de Christ pour nous perdent la joie de l'attendre. Ils voient quelque ressemblance entre un événement passé et la prophétie, mais ils ne savent pas ce que c'est que de veiller pour attendre la brillante étoile du matin. Quelle chose bénie que de le connaître, de lui être fidèle maintenant qu'il est rejeté, sachant que le jour approche où il occupera de nouveau sa place légitime sur ce monde. La prophétie est bonne, mais Christ est une meilleure part, et c'est la nôtre, qu'il nous donne de veiller et de l'attendre, lui, la brillante étoile du matin. Chapitre 26. Reniant le maître qui les a achetés. 2 Pierre, chapitre 2.
Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction. Et plusieurs suivront leurs excès, et à cause de la voix de la vérité sera blasphémée. Et, par cupidité, ils feront trafic de vous avec des paroles artificieuses. Mais leur jugement, dès longtemps, ne demeure pas oisif, et leur destruction ne sommeille pas. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais, les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui, huitième prédicateur de justice, faisant venir le déluge sur un monde d'impies, et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, il les a condamnés par une totale subversion, les établissant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété, et s'il a délivré le juste Lot, accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers, car ce juste, qui habitait parmi eux, les voyant et les entendant, tourmentait de jour en jour son âme juste à cause de leurs actions iniques. Le Seigneur s'est délivré de la tentation les hommes pieux et réservé les injustes pour le jour du jugement, pour être punis, mais spécialement ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté et qui méprisent la domination. Gens audacieux, adonnés à leur sens, ils ne tremblent pas en injuriant les dignités, tandis que les anges, plus grands en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Et ceux-ci, comme des bêtes sans raison, purement animales, nées pour être prises et détruites, parlant injurieusement dans les choses qu'ils ignorent, périront aussi dans leur propre corruption, recevant la récompense de l'iniquité, estimant plaisir les voluptés d'un jour, des taches et des souillures, s'abandonnant aux délices de leur propre tromperie, tout en faisant des festins avec vous, ayant les yeux pleins d'adultère et ne cessant jamais de pécher, amorçant les âmes mal affermies, ayant le cœur exercé à la cupidité, enfant de malédiction. Ayant laissé le droit chemin, ils se sont égarés, ayant suivi le chemin de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire d'iniquité. Mais il fut repris de sa propre désobéissance, une bête de somme muette, parlant d'une voix d'homme, réprima la folie du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, et des nuages poussés par la tempête, des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Car, en prononçant d'orgueilleux discours de vanité, ils amorcent, par les convoitises de la chair, par leur impudicité, ceux qui avaient depuis peu échappé à ceux qui vivent dans l'erreur, leur promettant la liberté, eux qui sont esclaves de la corruption. Car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Car, si, après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, étant de nouveau enlacés, ils sont vaincus par elles, leur dernière condition est pire que la première, car il leur eût mieux valu n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce que dit le proverbe véritable leur est arrivé, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi lui-même, et la truie lavée à se vautrer au bourbier.
Dans ces deux derniers chapitres, l'apôtre attire l'attention de tous les croyants, sur deux formes de mal qui caractérisent les derniers jours. Le chapitre 2 nous met en garde contre l'enseignement faux et mauvais des méchants. Le chapitre 3 indique la croissance rapide de l'incrédulité et de la moquerie que nous voyons se développer autour de nous déjà maintenant. L'incrédulité qui se base sur la stabilité de la création pour nier le retour du Seigneur. Si nous éprouvions un doute quelconque sur la vérité de l'Écriture, la lecture de cette seconde épître de Pierre l'enlèverait, car nous assistons maintenant au développement du mal contre lequel l'Esprit de Dieu nous met en garde dans ces pages.
Verset 1. Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction.
Renier le maître qui les a achetés, c'est renier les droits de Christ sur eux. Il ne faut pas confondre rédemption et achat, deux choses très différentes. Tout enfant de Dieu est racheté, et tous les hommes sont achetés. Matthieu 13 dit que le marchand acheta le champ à cause du trésor caché, puis il explique que le champ est le monde. Par sa mort, Christ, comme homme, a reçu autorité sur toute créature. Il est donc notre maître à tous. Pierre, au chapitre 10 des Actes, dit
« Il est Seigneur de tous »,
et Paul, en 1 Corinthiens 11, ajoute
« Le chef de tout homme, c'est le Christ. »
L'esclave qu'un propriétaire achète sur le marché aux esclaves ne fait que changer de maître. La rédemption secoue les liens de l'esclave et lui donne une entière liberté. Verset 2.
Plusieurs suivront leurs excès, et à cause d'eux la voie de la vérité sera blasphémée.
Nous savons que cela se réalise bien souvent dans la chrétienté. Les droits de Christ sont rejetés, même par ceux qui professent son nom, et ceux du dehors blasphèment la vérité.
Verset 3. Par cupidité, ils feront trafic de vous avec des paroles artificieuses. Mais leur jugement, dès longtemps, ne demeure pas oisif, et leur destruction ne sommeille pas.
Ce sont les prétentions religieuses par lesquelles Babylone vend les âmes d'hommes. Apocalypse 18, verset 13. Par cupidité et avec des paroles hypocrites, ces faux docteurs feront trafic de chrétiens pour retirer un gain. Mais le jugement de Dieu les atteindra. Versets 4 à 9.
Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui huitième, prédicateur de justice, faisant venir le déluge sur un monde d'impies, et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, il les a condamnés par une totale subversion, les établissant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Et s'il a délivré le juste Lot, accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers, car ce juste qui habitait parmi eux, les voyant et les entendant tourmenter de jour en jour son âme juste à cause de leurs actions iniques, le Seigneur s'est délivré de la tentation les hommes pieux et réservé les injustes pour le jour du jugement, pour être punis.
Il s'agit des voies de Dieu dans les temps passés et de ce que fait Dieu actuellement encore. le verset 4, qui attire notre attention sur les anges, peut être comparé avec Jude 6.
Il a réservé dans des liens éternels sous l'obscurité pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure.
Pierre parle des anges qui ont péché. Jude, des anges qui n'ont pas gardé leur origine. Pierre s'occupe de propre volonté. Jude, de l'apostasie, de la corruption dans l'Église et de l'enfant de Dieu obligé de choisir sa voie hors d'elle. L'apostasie est le fait d'abandonner sa première condition, celle dans laquelle Dieu nous a placés, ainsi que le fit Adam. Ce qui était apostasie en Adam fut perfection en Christ. Adam abandonna son origine première de sa volonté propre et par sa désobéissance. Christ fut parfaitement obéissant et fit la volonté de son Père. Il s'abaissa lui-même et Dieu l'a haut élevé.
Qu'il y ait en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus.
Philippiens 2, verset 5. Pierre est tout à fait explicite quant au jugement qui doit fondre sur les méchants. La foi s'appuie tranquillement sur Dieu, prend ses ressources en lui, assurée que le jour viendra où il manifestera ses desseins. En attendant, il veille sur ses enfants afin de les rendre capables de traverser le mal. Le Seigneur voudrait nous voir, comme Lot, garder une attitude pieuse en contraste avec le mal qui nous entoure. Nos âmes justes irritées de la mauvaise conduite des méchants. Versets 10 et 11.
Mais spécialement ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté et qui méprisent la domination. Gens audacieux, adonnés à leur sens, ils ne tremblent pas en injuriant les dignités, tandis que les anges, plus grands en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur.
C'est à quoi nous assistons de nos jours, au développement de la propre volonté. Ces gens sont caractérisés par une liberté sans retenue dans leur conduite. Ils rejettent d'abord l'autorité de Christ, puis toute autorité quelconque. Dieu a un gouvernement établi dans le monde et dans l'Église, mais ce monde le méprise. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas place pour la volonté de la chair. Nous ne pouvons pas nous opposer à son gouvernement sans grave préjudice. L'Écriture nous recommande très sérieusement la soumission, ne l'oublions pas. De tous côtés, ce mépris de l'autorité se fait jour. C'est le principe qui ruine les familles, les nations et l'Église, et qui dirigera l'homme de péché. De Thessaloniciens 2, versets 3 et 4.
Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu.
Versets 12 à 19.
Mais ceux-ci, comme des bêtes sans raison, purement animales, nées pour être prises et détruites, parlant injurieusement dans les choses qu'ils ignorent, périront aussi dans leur propre corruption, recevant la récompense de l'iniquité, estimant plaisir les voluptés d'un jour, des taches et des souillures, s'abandonnant aux délices de leur propre tromperie, tout en faisant des festins avec vous, ayant les yeux pleins d'adultère et ne cessant jamais de pécher, amorçant les âmes mal affermies, ayant le cœur exercé à la cupidité, enfants de malédiction,
ayant laissé le droit chemin, ils se sont égarés,
ayant suivi le chemin de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire d'iniquité. Mais il fut repris de sa propre désobéissance, une bête de somme muette, parlant d'une voix d'homme, réprima la folie du prophète. Ce sont des fontaines sans eau et des nuages poussés par la tempête, des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours, car, en prononçant d'orgueilleux discours de vanité, ils amorcent, par les convoitises de la chair, par leurs impudicités, ceux qui avaient depuis peu échappé à ceux qui vivent dans l'erreur, leur promettant la liberté, eux qui sont esclaves de la corruption, car on est esclave de celui par qui on est vaincu.
Terrible description qui nous fait voir ce même caractère parmi ceux qui enseignent. Ils prophétisent pour un gain comme Balaam. N'oublions pas que quelque chose dans notre nature répond à toute forme de tentation, à tout ce que Satan nous présente. Nous ne croirions pas que cela puisse arriver parmi les enfants de Dieu si le Seigneur lui-même ne nous mettait en garde. Ceux dont il s'agit ici se disent chrétiens, et pourtant ils tolèrent leur propre convoitise, méprisent l'autorité, de telle manière que les anges même reculent. Ils prennent part aux fêtes des chrétiens, en quoi ils se trompent eux-mêmes et corrompent les autres. Ils cèdent au mal et, en promettant aux autres la liberté, ils deviennent esclaves de leur corruption morale. Voilà ce que devient la chrétienté. Verset 20.
Car, si, après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, étant de nouveau enlacés, ils sont vaincus par elles, leur dernière condition est pire que la première.
Momentanément, ils ont échappé à la souillure du monde, non par la conversion, mais par une connaissance extérieure du Seigneur Jésus-Christ. Mais s'ils se laissent reprendre par le mal, c'est pire que s'ils n'avaient pas connu du tout la vérité. Ceux qui refusent et méprisent le christianisme oublient de dire ce que l'homme lui doit. Le monde a bénéficié moralement et socialement de la lumière que Dieu a donnée par sa parole. On ne l'oublie que trop facilement, et on le méprise en traitant de fable ce que Christ nous a apporté. L'effet du christianisme a été de délivrer les hommes de la corruption du monde. On a accepté la vérité, mais on ne l'a pas acceptée dans sa conscience. Sinon, elle s'y serait maintenue et aurait travaillé par la grâce dans les cœurs. En s'écartant de la vérité, l'homme est devenu le pire ennemi de Christ. C'est pourquoi veillons à ne pas nous écarter d'un fil de la vérité que Dieu nous a donnée. Il est bien pire d'avoir connu la vérité et de l'avoir abandonnée que de ne l'avoir jamais connue. Verset 21.
Car il leur eût mieux valu n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné.
C'est le saint commandement, en contraste avec ce que les faux docteurs du début du chapitre essayaient d'enseigner. Verset 22.
Mais ce que dit le proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi lui-même, et la truie l'avait à se vautrer au bourbier.
Le chien reste un chien, une bête impure. Et on a beau laver la truie, elle reste ce qu'elle est et retourne au bourbier. Ainsi en est-il de l'incrédule ou de celui qui a fait une profession extérieure du nom de Christ. Il n'est pas né de nouveau, mais n'est touché qu'extérieurement par la vérité chrétienne. L'homme reste l'homme, sitôt qu'il n'a plus de contraintes, il retourne aux choses qu'il aime. Si le chrétien s'éloigne de Christ, il se trouve mêlé à la souillure du monde et devient misérable. Le vrai croyant tombe souvent et pêche, mais, comme Pierre, il ne sera pas heureux sans être retourné au Seigneur, lavé, restauré et jouissant de son pardon. Chapitre 27. Où est la promesse de sa venue ? 2 Pierre chapitre 3.
Je vous écris déjà, bien-aimés, cette seconde lettre, et dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur par vos apôtres, sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de sa venue ? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent au même état dès le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, que, par la parole de Dieu, des cieux subsistaient jadis, et une terre tirée des eaux, et subsistant au milieu des eaux, par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. Mais les cieux et la terre, de maintenant, sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et, dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et hâtant la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous, et les éléments embrasés se fondront. Mais, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui, en paix, et estimez que la patience de notre Seigneur est salut, comme notre bien-aimé frère Paul aussi vous a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, ainsi qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a de difficiles à comprendre, que les ignorants et les mal affermis tordent, comme aussi les autres Écritures, à leur propre destruction. Vous donc, bien-aimé, sachant ces choses à l'avance, prenez garde, de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, et maintenant, et jusqu'au jour d'éternité. Amen.
L'homme livre des assauts contre la vérité de la révélation et prétend que la création a toujours existé telle qu'elle est maintenant. Tel est le sujet de ce chapitre. Matérialisme, confiance de l'homme en ce qu'il voit plutôt que de croire dans la parole de Dieu qui nous assure du retour du Seigneur Jésus. Versets 1 à 4.
Je vous écris déjà, bien-aimés, cette seconde lettre, et, dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur par vos apôtres, sachant tout d'abord ceci qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie, selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de sa venue ? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent au même état dès le commencement de la création. »
Pour suivre sa convoitise, on commence toujours par railler. Peut-être les convoitises ne sont-elles ni grossières, ni extérieures. Mais l'homme désire être indépendant, faire ce qu'il lui plaît. Il s'imagine alors être libéré de Dieu et de son autorité, et serait même heureux de se débarrasser de Dieu, l'exclure de ce monde s'il le pouvait. Ces moqueurs croient que la seule chose durable est la création. Elle remonte loin dans l'espace, disent-ils. Comment elle débuta, nous ne le savons pas exactement. mais elle continue comme elle a commencé. Ils jugent d'après les apparences, croyant voir la nature immuable, bien que la parole de Dieu nous assure du contraire. Quant à la promesse du retour du Fils de Dieu, c'est pour eux chose absurde et incompréhensible. S'ils s'en moquent, ils sont obligés d'admettre la création, et s'il y a une création, où est le Créateur? Là, ils ne peuvent pas répondre. Versets 5 et 6.
Car ils ignorent volontairement ceci, que, par la parole de Dieu, des cieux subsistaient jadis, et une terre tirée des eaux, et subsistante au milieu des eaux, par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau.
Il se trouve des gens pour nous dire de ne pas croire au déluge. Ils estiment une chose pareille impossible. Ah, dit Pierre, si vous admettiez le déluge, vous devriez admettre le jugement de Dieu sur les méchants. Et, si vous admettiez le jugement de Dieu une fois, vous seriez obligé d'admettre un nouveau jugement. Ainsi donc, les hommes ne veulent pas accepter et restent volontairement ignorants du châtiment envoyé par Dieu sur les hommes. La terre émergea des eaux par la parole de Dieu, puis ces mêmes eaux, sur son commandement, l'engloutirent avec tout ce qui l'habitait. Seuls ceux qui étaient dans l'arche furent sauvés. Versets 7 et 8.
Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimée, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance.
La parole de Dieu appela ces cieux et cette terre à l'existence, tels qu'ils sont maintenant. Par cette même parole, ces cieux et cette terre sont réservés pour le jour du jugement et pour la destruction des hommes impies. Le Seigneur n'est pas lent en ce qui concerne son retour, mais il supporte longuement en grâce, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Il n'y a qu'une seule occasion pour laquelle Dieu est lent, c'est le jugement. Il ne juge jamais avant d'avoir averti et d'avoir donné le temps pour la repentance, mais qu'il est prompt à sauver, et qu'il apporte rapidement la paix à une conscience troublée, et qu'elle supporte dans sa grâce. Verset 10.
Or le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et, dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement.
Cela coïncidera avec le grand trône blanc. Les cieux et la terre s'enfuiront, comme le dit Apocalypse 20, verset 11.
Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel, et il ne fut pas trouvé de lieu pour eux.
L'Apocalypse nous décrit les effets de cette puissante conflagration. Pierre nous en donne les causes. L'incrédule croit que tout est stable et ne changera jamais. Le matérialisme est pour lui la seule doctrine valable. Au contraire, dit Pierre, ce n'est qu'illusion et tout doit être dissous. Tout ce qui forme un espoir pour la chair doit disparaître à toujours. Verset 11.
Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété?
Ce qui constitue l'erreur du moqueur devrait pousser l'enfant de Dieu à la sobriété et à une marche empreinte de piété. La considération de ces perspectives devrait l'engager à occuper une place distincte et à se séparer complètement du mal. Remarquons comme Pierre fait souvent allusion à notre conduite. Dans la première épître, nous avons été rachetés de notre vaine conduite, chapitre 1, verset 18, c'est-à-dire de l'impiété dont les sources sont dans la chair et ses satisfactions dans les formes extérieures. Puis il recommande d'avoir une conduite honnête parmi les nations, chapitre 2, verset 12. Notre comportement doit nous maintenir dans une attitude qui s'élève au-dessus des hommes du monde, quoique toujours correcte dans nos relations avec autrui. Ensuite, l'apôtre engage les femmes à gagner leur mari incrédule par la pureté de leur conduite. Chapitre 3, verset 2. Il voudrait que notre bonne conduite en Christ, chapitre 3, verset 16, fasse honte à nos calomniateurs et les fasse taire. Dans la seconde épître, il donne Lot un exemple pour nous avertir de ne pas nous mêler au monde dont la conduite débauchée l'accablait. Chapitre 2, verset 7. Par contraste, il insiste sur ce que devrait être le témoignage de l'enfant de Dieu, une sainte conduite. Quelle immense miséricorde une âme trouve dans la connaissance de Christ. Elle nous délivre d'une conduite vaine et débauchée, et produit au contraire ce qui est honnête, pur, bon et saint. Pierre n'est pas seul à attacher de l'importance à notre conduite, c'est-à-dire nos paroles, nos habitudes, notre manière d'être et de vivre. Jacques dit, « Qui est sage et intelligent parmi vous, que par une bonne conduite il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. » Jacques 3, verset 13. Paul décrit l'importance et le pouvoir secret de ce maintien par ces mots. « Notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. » Philippiens 3, verset 20. Versets 12 et 13.
« Attendant et hâtant la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Mais, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. »
Le jour du Seigneur durera longtemps, cette conflagration se produira quand il prendra fin, mais, pour nous, nous attendons l'état éternel. Il n'y a que trois passages qui y font allusion, 2 Pierre chapitre 3, Apocalypse chapitre 21 et 1 Corinthiens chapitre 15. Christ règne comme Fils de Dieu et comme Fils de l'homme tout au long du millénium. Au bout des 1000 ans, ce sera la fin, la mort elle-même sera détruite. Il la détruira en ramenant les méchants à la vie et en les jetant dans l'étang de feu. Apocalypse 20, verset 14.
Et la mort et le Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu.
Il aura alors tous ses ennemis à ses pieds et remettra le royaume à son Dieu. Les rois humains ont tous vu leurs royaumes enlevés par la mort ou par la violence. Christ seul cède son royaume après avoir régné 1000 ans. La justice peut se trouver dans trois conditions. Maintenant, la justice souffre. Durant le millénium, la justice règne. Dans l'éternité, la justice habite. Elle pourra se reposer là où Dieu sera pour toujours. On comprend Pierre qui dit « Vous qui attendez toutes ces choses pour l'éternité, prenez garde à être sans tache et sans blâme jusqu'à ce qu'il vienne. » Verset 14. Versets 15 et 16.
« Estimez que la patience de notre Seigneur est salut, comme notre bien-aimé frère Paul aussi vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, ainsi qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres. » Où il parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a de difficiles à comprendre, que les ignorants et les mal affermis tordent, comme aussi les autres Écritures, à leur propre destruction.
Magnifique témoignage quant aux écrits de Paul. Pierre a oublié que Paul lui a résisté à Antioche et s'est vu obligé de lui faire honte devant tous. Tel est le résultat de la grâce. Quelque trouble que cette scène ait occasionné, tout est maintenant dissipé dans le cœur de Pierre. Il garde son affection pour Paul et l'aime d'autant plus profondément à cause de sa fidélité. Paul, dans ses écrits, mentionne Pierre trois fois, outre l'affaire d'Antioche, dans la première épître aux Corinthiens. À Corinthe, quelques-uns disaient « Moi, je suis de Céphas », chapitre 1, verset 12, parole sectaire que Pierre n'aurait sans doute pas approuvée. Quand les droits apostoliques étaient mis en question, Paul dit « N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur comme femme, comme font aussi les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas ?» Chapitre 9, verset 5. D'où nous pouvons conclure que la femme de Pierre l'accompagnait probablement dans ses voyages. La troisième mention désigne Pierre comme ayant été témoin de la résurrection du Seigneur. Il a été vu de Céphas. 1 Corinthiens 15, verset 5. Verset 17.
Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde, de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté.
Nous sommes entourés de ces éléments, le doute, le scepticisme, l'incrédulité. Alors, prenez garde, de peur que vous ne tombiez.
Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Christ peut garder notre cœur et notre esprit. Mais prenons garde, car la révélation d'une vérité spéciale est toujours le point d'attaque de Satan. Que le Seigneur fixe dans nos cœurs sa vérité et nous donne de veiller et de prier, de peur que nous ne nous écartions et que nous croissions dans sa connaissance jusqu'à son retour.
À lui la gloire, et maintenant, et jusqu'au jour d'éternité.